RFI, grand reportage,
Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous conduit aujourd'hui au Danemark, qui pourrait devenir le premier pays de l'Union européenne avec une agriculture 100% écologique. Et ce, grâce aux politiques publiques menées depuis 20 ans. Dernière politique en date, un plan d'action lancé en 2012. Son objectif, augmenter la demande des consommateurs et doubler les surfaces agricoles cultivées en bio à l'horizon de 2020. Pour y parvenir, la part des produits bio servis dans les cantines scolaires, les hôpitaux et autres établissements publics devait passer à 60%. Mais le gouvernement a changé et certaines mesures ont été annulées. Pourtant, l'objectif initial pourrait finalement bien être atteint. Le Danemark vers une agriculture 100% bio, c'est un grand reportage signé Agnieszka Kumor, réalisation Eva Piedel.
Copenhague, la capitale du Danemark au petit matin. C'est la cloche de l'église Notre Sauveur qui résonne. Nous sommes dans le quartier historique de Christianshavn, un petit îlot de terre coincé entre les canaux. Au feu rouge, sur un couloir qui lui est dédié, une armada de cyclistes patientent. Andrea gare sa bicyclette avant d'aller en cours. Nous lui demandons si elle achète des produits bio.
Oui, j'en achète. C'est un peu cher pour moi parce que je suis étudiante, mais j'en prends aussi souvent que je peux.
Un peu plus loin, dans un café au style moderne, Camilla, la quarantaine pimpante, achète aussi du bio.
Je dirais que chaque fois que je fais mes courses, j'achète des produits bio. Ce n'est pas 100%, mais mettons 70%. Je suis végane depuis de nombreuses années, mais j'achète de la viande pour ma fille. Et le bien-être animal, c'est important pour moi.
Thank you very much.
You're welcome.
Les cafés, les restos, les supermarchés et même la restauration rapide font la part belle aux produits écologiques, reconnaissables par une simple lettre rouge coiffée d'une couronne, un E pour Økologisk en danois. Résultat, plus de la moitié des habitants du Danemark achètent du bio au moins une fois par semaine. Et si le bio est ancré dans le quotidien des Danois, c'est grâce aux agriculteurs devenus écolos. Direction la gare centrale de Copenhague, nous prenons un train pour Birkerød, à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale. Entourée de lacs et de forêts, cette petite ville coquette abrite des résidences secondaires. C'est ici qu'à la fin des années 90, Elisabeth et Otto Rasmussen, ingénieurs chimistes, ont acheté une petite ferme pour eux et leurs trois enfants. Et c'est en 2004 qu'Otto a choisi de rejoindre sa femme à la ferme.
Je me suis creusé la tête pour savoir si j'allais être plus heureux derrière un bureau ou au milieu de la nature. Le salaire d'un consultant n'a rien à voir avec ce que touche un agriculteur. La première année, mes revenus ont drastiquement baissé. Nous avons donc contracté un prêt, agrandi le poulailler et ouvert une boutique de produits bio. Et en 2006, ça a rebondi. Les aides de l'État répartis sur 5 ans, combinés aux fonds européens, nous ont permis de passer ce cap difficile.
Aujourd'hui, Elisabeth et Otto exploitent 134 hectares où ils cultivent des fruits et des légumes. Mais la majorité de leurs terres sert à la conservation de la nature et au pâturage, où les vaches de la race alpine Simmental, connues pour la qualité de leur viande, passent le plus clair de leur temps. Le bio attire de plus en plus de monde. Les stagiaires et les volontaires se succèdent à la ferme.
Chaque jour, les légumes fraîchement récoltés sont vendus dans notre boutique. Nos clients peuvent se balader dans les champs et voir d'où vient leur nourriture, car bon nombre d'entre eux ne le savent pas. Ils pensent qu'elle vient du supermarché. Et c'est notre mission de faire les choses correctement et d'en parler. Comme ça, les gens comprennent qu'il y a un lien entre la façon dont nous travaillons et le véritable goût des produits.
Det er Otto. Fra hvad siger du? Yes, jeg har glemt at sende noget til dig, så det bliver lige udskudt en uge.
La commande d'une pièce pour le toit vient d'arriver. Nous sortons en traversant son champ de cale. Ce chou ancien revenu au goût du jour. Otto s'arrête et regarde sa ferme.
I love it.
Ah, je l'aime.
Mais Otto n'est pas dupe. Bio ou conventionnel, le fermier est toujours en queue de peloton dans le partage des bénéfices. Et en ce moment, les prix sont à la baisse. Comment le marché du bio s'est construit et imposé au Danemark ? Retour à Copenhague pour rencontrer Kirsten Lund Jensen, responsable écologie au Conseil danois de l'agriculture et de l'alimentation.
Ce sont les Danois qui consomment le plus de produits bio en Europe. Cela représente 13% de leurs achats. C'est le résultat de la promotion menée conjointement depuis les années 80 par la profession et le gouvernement. Avec un seul label pour tous les produits bio, cette fameuse lettre E que tous les Danois connaissent, y compris les enfants, nous avons réussi à faire du bio l'un des enjeux de l'alimentation dans son ensemble.
Ces enjeux sont multiples. La qualité de l'eau, l'environnement, mais aussi l'accès à l'alimentation pour tous.
Au Danemark, on peut trouver les aliments bio dans des commerces pas chers. Au départ, les fermiers craignaient la dévalorisation de leurs produits. Mais si on veut monter en puissance, il faut du volume. On ne peut pas rester dans un marché de niche. Nos coopératives laitières, celles qui ont les abattoirs ou encore les coopératives productrices d'œufs, ont très tôt utilisé leurs installations pour transformer les produits bio. Et ça a permis de baisser les prix.
Les valeurs du bio ont résisté à l'épreuve du marché, ce qui a permis aux fermiers de vivre de leurs produits et aux consommateurs de les acheter. Au passage, les industriels et les supermarchés ont bien sûr eu leur part du gâteau. Mais ce marché a besoin de nouveaux consommateurs et l'apprentissage commence dès le plus jeune âge. À Geswerksweinschool, une école publique située dans le quartier de Westerpoort, c'est l'heure de déjeuner. Dans un décor épuré et simple, les élèves mangent ensemble avec leurs enseignants au menu ragoût de légumes accompagné de riz. Emma apprécie moyennement sur une échelle de 1 à 10. Elle donne combien ?
Je donne 5. Les repas sont bons, mais pas toujours. Aujourd'hui, le plat est asiatique, mais pas aussi asiatique que je le voudrais. Il n'y a pas de viande. C'est bon pour notre santé, mais la viande me manque.
La note de Freya, 7 sur 10.
Les plats ont bon goût, mais parfois les quantités ne sont pas suffisantes. Le plat d'aujourd'hui me plaît, puis c'est bien de goûter des plats que tu ne connais pas.
Déguster, partager, c'est la vocation de cette école, pas comme les autres. Mur en briques, parquet en bois, tout ici est imprégné d'histoire. L'école a été construite en 1865, mais il y a 13 ans, elle a pris une nouvelle orientation, raconte Marianne Risser-Hansen, la principale.
Nous sommes l'une des écoles du goût fondées par la municipalité de Copenhague. Cela signifie que nous avons une cuisine sur place où nous préparons des repas chauds pour nos élèves. Mais l'école du goût signifie aussi que nous appréhendons la nourriture dans toutes ses dimensions, la façon dont elle est produite, ce qu'elle apporte à notre santé. Traditionnellement, les repas se prenaient en famille, c'était un moment de partage, on discutait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous travaillons ensemble avec les parents et les enfants sur cet aspect parce qu'il définira notre société à l'avenir.
It's our task, of course, together with the parents, to work with the children in this way.
Les consommateurs de demain devront, à en croire la principale, apprendre à réduire leur consommation de viande.
We only serve meat, fish or poultry once a week.
Nous servons de la viande, du poisson ou de la volaille une fois par semaine. Le reste de la semaine, les plats sont végétariens. Les parents, en effet, critiquent parfois ce dispositif, mais il est de notre responsabilité d'enseigner aux futures générations qu'elles devront vivre dans un monde où, espérons-le, il y aura moins de viande. Car sa production n'est pas bonne pour notre environnement. 90% de la nourriture servie dans notre cantine est écologique. Nous nous approvisionnons auprès d'un prestataire choisi par la mairie. Mais notre chef peut aussi commander directement à la ferme. Certes, notre budget n'est pas suffisant pour faire tourner la cantine et les parents doivent compléter avec 3 euros par repas. Mais ils peuvent demander une réduction auprès de la mairie.
But if they don't have money, they can get a reduction of price.
Et Marianne Harisser-Hansen insiste, son école n'est pas une école pour les enfants de riches, mais une école pour tous, avec un droit à l'éducation la plus complète. Quelques élèves s'affairent dans les cuisines. Une semaine par an, les enfants mettent la main à la pâte et préparent les repas sous le contrôle du chef Hermann Fegerlund.
Yes, of course. Otherwise, I wouldn't have been here for 8.5 years.
J'aime mon travail, bien sûr. Autrement, je ne travaillerais pas ici depuis 8 ans et demi. J'aime l'idée d'apprendre la durabilité aux enfants, d'essayer de nouvelles variétés de légumes. Le bonus, ce sera quand ces enfants grandiront et partiront de chez eux et qu'ils seront, je l'espère, beaucoup plus ouverts. Avant de venir ici, je travaillais comme photographe, styliste pour les grands restos. Je maquillais les plats pour les rendre plus beaux et puis je jetais. Ici, c'est l'inverse. Il n'y a pas de perte. On mange tout. C'est une cantine scolaire, mais nous la pensons comme si c'était un restaurant.
And it makes sense. This is a public restaurant, but we think it as a restaurant.
À Copenhague, la part des produits bio dans la restauration collective sous tutelle des pouvoirs publics atteint 90%, alors qu'en France, elle n'est que de 1,4%. Le marché du bio a mûri au Danemark. Mais un problème le guette, la surproduction. Comment répondre à ce nouveau défi? Pour le savoir, nous nous rendons sur la péninsule de Jutland, dans l'ouest du pays. Aarhus est la deuxième ville du Danemark. C'est dans sa banlieue nord, à Abihøj, que la plus grande association danoise de producteurs et de distributeurs de l'industrie agroalimentaire bio a son siège. Son nom, Organic Denmark. Dans le hall d'entrée trône un trophée, une médaille attribuée l'année dernière par les Nations Unies pour la promotion du bio dans les politiques de demain. Paul Holmbeck, directeur stratégie chez Organic Denmark, ne cache pas sa fierté.
Cette médaille récompense notamment nos efforts dans la restauration collective, mais aussi le fait que nos politiques marchent et que nous avons su mobiliser autour du bio beaucoup de monde, les fermiers, les consommateurs et les restaurateurs.
Le marché bio s'est démocratisé au Danemark. Est-ce une situation durable? Oui, répond Paul Holmbeck, mais à certaines conditions.
Pour les produits vendus en grande quantité, la différence de prix par rapport aux produits classiques est de 20%. C'est moins que dans la plupart des pays. 30 à 50% du lait, des œufs, de la farine, des flocons d'avoine, ainsi que de nombreuses variétés de légumes sont vendus en bio au Danemark. Mais pour la viande, le beurre ou les fromages, il faudra toujours payer plus cher, environ 50%. C'est en lien avec la vraie valeur de la nourriture. Élever des animaux dans de bonnes conditions, leur donner de l'espace, protéger la nature, tout cela a un coût et le consommateur danois est prêt à payer le prix.
All of those things require that consumers are prepared to also pay for those things.
Mais cela risque de ne pas suffire. Aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs convertis au bio augmente plus rapidement que le nombre de consommateurs. Quelles conséquences pour le marché ? Søren Berg Pilgaard Christensen, professeur de géographie à l'Université de Copenhague, nous répond.
Quand le bio est devenu tendance, on a constaté qu'une partie des fermiers se tournait vers ce mode de production plus pour des raisons économiques qu'idéologiques. C'est un bon test pour le secteur de savoir s'il sera suffisamment solide pour être durable. Le problème, c'est qu'au bout de 5 ans, une fois leur contrat avec les laiteries expiré, une grande partie de ces fermiers abandonnaient le bio pour faire autre chose. Le secteur bio est en fait très hétérogène, il évolue tout le temps. Ces nouveaux agriculteurs considèrent une ferme comme un simple moyen de production. Ils peuvent faire soit du bio, soit de l'agriculture conventionnelle au gré de la conjoncture.
Un exemple parmi d'autres, depuis un an, les coopératives laitières n'accordent plus d'autorisation de production en bio en raison de la saturation du marché. Les opportunités se trouvent peut-être hors du Danemark.
L'export pourrait remédier à une certaine stagnation dont souffre le marché bio au Danemark. Je ne pense pas que la consommation recule, mais peut-être qu'elle ne progresse pas aussi rapidement qu'avant. L'export serait donc une grande opportunité pour les producteurs. Et ça, nos gouvernements successifs ont bien compris. La Chine représente un grand potentiel. Ce pays, où on se souvient encore du scandale du lait contaminé, s'ouvre aux produits bio. Si quelqu'un peut rassurer les Chinois que le produit est de bonne qualité, et le bio-lait, il a toutes les chances de réussir là-bas.
There's a big market potential there.
Chercher de nouveaux marchés, mais aussi répondre aux exigences des consommateurs de plus en plus soucieux du climat, c'est l'objectif de Mikkel Juul Nielsen, un jeune producteur de lait à la ferme de Karensminde, dans le Jutland.
Depuis quelques années, avec mon père, nous investissons une bonne partie de notre argent dans la ferme. Il s'agit de rationaliser les tâches, faire en sorte que le travail soit moins pénible. Nous achetons 35% de l'énergie verte issue des éoliennes et nous avons réussi à réduire nos émissions de méthane ainsi que notre empreinte carbone. Certains de ces investissements ne coûtent pas très cher. Il faut parfois juste changer la façon de travailler.
Most of the things we made so far hasn't been that expensive. It's just a different way of doing it.
À Birkerød, Otto reste optimiste. L'avenir est de son côté.
L'agriculture 100% bio est tout à fait possible au Danemark. Mais de grands bouleversements sont à prévoir. Il y aura moins d'élevage de cochons et de vaches, beaucoup plus de prés. Et je rêve de ce moment, il arrivera peut-être dans 30, 40, 50 ans, ce moment où nous allons nous débarrasser des pesticides. Je ne vois pas pourquoi l'homme continuerait de manger des aliments contaminés ou des cochons qui n'ont jamais vu le ciel. Et si tout le monde se met à produire du bio, les prix pour les consommateurs vont forcément baisser.
Un pays entier sans pesticides ? Le Danemark a encore du chemin à faire pour le devenir, mais les Danois se donnent les moyens pour y parvenir. Le Danemark vers une agriculture 100% bio, un grand reportage d'Agnieszka Kumor, réalisation Eva Piedel. Une émission réalisée avec le soutien de l'Union européenne. Il y avait l'écho métal, il y avait le ghost.